Si vous mesurez l'une des particules intriquées, quelque chose change physiquement chez l'autre particule. C'est exactement ce qu'ils ont remis en question. Ils disaient, non, ce n'est pas possible, car ce ne serait pas local. Par conséquent, il doit y avoir un élément sous-jacent de la réalité qui a effectivement déterminé le résultat avant que vous ne fassiez la mesure. Donc, salut tout le monde. Vous savez, ce rêve quand vous êtes un enfant de 5 ans, et qu'il vous mette sur une scène avec toutes ses phases, et que vous êtes censé parler de mécanique quantique ou quelque chose comme ça. Je pense que cela fait partie de la conception de cet événement particulier, car ce ne sera que du chaos, et sans contrainte, mais je pense que cela pourrait être une belle chose. Donc cet enfant de 5 ans est Sabina Ozenfelder, qui est une physicienne théoricienne beaucoup plus qualifiée et dont la pensée et les recherches sont extrêmement variées. Moi, d'un autre côté, Matodo, je suis juste un enfant de 5 ans ordinaire. Je suis aussi astrophysicien. Techniquement, je pense aux trous noirs et vous savez, je pense que c'est une chose merveilleuse, des trucs extragalactiques. Nous sommes tous les deux des youtubeurs, donc nous avons quelque chose en commun. Nous aimons parler de l'univers sur Internet. Et aujourd'hui, notre objectif est de parler de l'inconnu quantique. Dont la plupart m'est inconnue. Mais vous savez, la mécanique quantique est apparue il y a environ 100 ans, cette décennie. Il y a très près de 100 ans. Et c'est peut-être l'une des théories les plus réussies de la physique, avec un pouvoir prédictif énorme, et pourtant, comme on dit, nous ne savons toujours pas ce que cela signifie. Donc une chose que je voulais vraiment faire parce que ça m'intrigue, c'est de demander à Sabina quelle était sa première expérience de la mécanique quantique et comment elle s'est rendue compte que c'était peut-être quelque chose qu'elle voulait faire pour le reste de sa vie. Est-ce que ça vous dérangerait de partager? Eh bien, je suis arrivé au fondement quantique par un détour par la gravité quantique. J'ai appris la mécanique quantique, comme la plupart des étudiants à cette époque, je suppose, d'un professeur qui disait « Ne demandez pas ce que ça veut dire. C'est ça les mathématiques. Ne posez pas de questions sur les interprétations. Arrêtez de réfléchir. » C'était littéralement cette attitude du genre « taisez-vous et calculez » qu'on nous donnait. Et, bien sûr, certaines personnes pensaient qu'il se passait quelque chose de vraiment profond qu'elles ne nous disaient pas. Mais la plupart du temps, ça n'amenait nulle part. Et donc, j'ai fait mon doctorat en physique des particules, en théorie quantique des champs. Et toutes ces questions fondamentales, elles sont toujours là, mais elles sont occultées, vous savez, par toutes ces mathématiques. Et puis je me suis intéressé à la question de savoir comment quantifier la gravité et j'ai beaucoup travaillé avec des gens qui faisaient de la théorie des cordes, de la gravité quantique et d'autres choses. Et ça ne menait nulle part. Et donc je suis arrivé à la conclusion qu'il y a probablement une voie que nous avons manquée au début. Et cela m'a amené à m'intéresser à ces questions fondamentales, car je pense toujours aujourd'hui que la raison pour laquelle nous n'arrivons pas à combiner la relativité générale avec la mécanique quantique n'est pas du côté de la gravité, mais du côté quantique, car nous n'avons pas vraiment réussi à comprendre ce qui s'y passe. MHM, ouais. Ce n'est pas l'opinion consensuelle concernant la gravité. Ma première expérience avec la mécanique quantique était juste, vous savez, un étudiant de premier cycle en physique sans vraiment savoir ce que je voulais faire. Je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs là. Il y avait du contenu à aborder. Et cela commence par beaucoup de physique newtonienne, une physique très mécanique. Donc vous avez ces équations qui disent comment les particules se déplacent, ces particules interagissent avec d'autres particules et vous avez cet univers mécanique, comme on l'appelle, très sec, magnifique, mais très sec et prévisible. Et puis j'ai suivi mon cours de mécanique quantique et je me souviens avoir entendu parler de l'expérience de la double fente, que je décrirai peut-être dans une seconde. Et c'était comme si cette petite fissure de lumière s'était ouverte dans ce monde très mécaniste et j'ai réalisé à ce moment-là que je me disais, oh, la magie est réelle. Et j'ai l'impression que c'était ma lettre à Poudlard. Et bien sûr, la mécanique quantique n'est pas magique, mais c'était cette vision au-delà de l'intuitif et de ce truc qui, toute ma vie, m'a semblé juste, cette chose réglementée qu'était la physique. Et puis je me suis mis à faire de l'astrophysique parce que la mécanique quantique s'est avérée très difficile. Donc je pense qu'il y a cette qualité mystique dans la mécanique quantique, c'est peut-être pour ça que j'ai ressenti ça comme ça. Il y a ces questions totalement sans réponse tout au fond de la mécanique quantique qui défient l'intuition. Et je pense qu'au cœur de tout cela se trouve le problème de la mesure. Seriez-vous d'accord?
Ouais, tout à fait. Il y a beaucoup d'autres choses dont les gens aiment parler, comme l'intrication, et je dis toujours que l'intrication ne me dérange pas. Vous savez, nous pouvons gérer l'intrication. Nous savons ce que c'est. Nous pouvons la décrire mathématiquement, mais nous ne savons tout simplement pas ce que c'est en termes de processus de mesure. Nous ne pouvons même pas dire quelle est la mesure. C'est vraiment un peu gênant. Ce qui est intéressant avec le problème de la mesure, c'est que nous y arrivons de manière expérimentale. Pour aider le public, nous devrions peut-être expliquer quel est le problème de la mesure.
D'accord. Vous prenez des particules, cela peut être des photons, des électrons, peu importe. Vous les lancez sur un mur très fin, puis vous découpez deux fentes et vous voyez des points sur un mur, puis vous découpez deux fentes dans le mur et vous continuez à lancer. Certaines particules traversent le mur et vous avez un écran de l'autre côté. D'accord? Vous voyez des points là où vos particules atterrissent de l'autre côté. Et on pourrait s'attendre à ce que certaines s'empilent parce qu'elles sont passées par une fente, d'autres parce qu'elles sont passées par l'autre fente. Ce n'est pas ce que l'on voit, du moins pour une particule quantique. Ce que l'on voit, c'est qu'à mesure que l'on lance de plus en plus de particules, elles forment ces bandes que l'on appelle des bandes d'interférence qui n'ont aucun sens en surface, mais qui ressemblent terriblement à ce qui se passerait si une onde passait par ces deux fentes. L'onde ressortirait de l'autre côté, produisant des ondulations qui interféreraient entre elles, s'accumuleraient ou disparaîtraient, et l'on obtiendrait ce joli motif sur le mur. Mais cela arrive même si l'on lance des électrons, un par un. D'accord? Donc les électrons ne se connaissent pas et l'interprétation standard de nos jours est que ce petit grain de matière traverse simultanément ces deux fentes pour atteindre l'écran, non pas en tant que particule, mais en tant que ce que l'on appelle une fonction d'onde. Donc une distribution de probabilité de l'endroit où cet électron pourrait se trouver si l'on regardait. D'accord. Donc, à l'écran final, vous regardez et l'électron apparaît ici ou apparaît ici ou apparaît ici. Mais le motif qui se construit est cette distribution ondulée qui ne semble avoir de sens que si l'électron était une onde qui le traverse et qu'on dit qu'il s'est effondré en une seule particule ponctuelle à l'écran lors de la mesure. Et donc le problème de la mesure est de savoir comment l'électron peut être dans cette sorte d'état flou d'un espace de probabilité, d'une fonction d'onde jusqu'à ce qu'on le regarde et qu'il se résolve soudainement en une position. D'accord, c'est l'expérience de la double fente racontée de manière très très grossière. Pouvez-vous nous en dire plus sur les raisons pour lesquelles il est étrange que l'électron fasse cela lors de la mesure?
Oui. Il y a donc deux parties à cette bizarrerie. L'une est ce qui inquiétait déjà Einstein. Donc si vous avez cette onde de l'électron qui traverse les deux fentes, elle se propage vers l'écran. Mais comme vous venez de le dire, lorsque nous regardons réellement où se trouve l'électron, il n'est qu'à un seul endroit. Donc d'une certaine manière, la fonction d'onde doit disparaître très soudainement sur tout l'écran et ce n'est pas local. Donc, cela doit se produire instantanément partout, ce qui est plus rapide que la vitesse de la lumière. Et c'est ce qu'Einstein appelait une action étrange à distance, car si vous regardez simplement les mathématiques, cela se produit simplement en un point. Comment cela est-il censé se produire? Nous ne connaissons pas le processus, donc nous avons les mathématiques qui font en fait ce claquement en gros. Mais est-ce que c'est ce qui se passe réellement physiquement? Et l'autre chose qui est étrange, c'est que ce qui se passe dépend de ce que vous regardez, car avec la double fente, comme Matt vient de le dire, si vous n'avez qu'une seule fente, vous n'obtenez pas ce motif d'interférence. Vous obtenez juste un tas de, vous savez, à un endroit. En gros, C'est une bosse. Cela soulève la question de savoir ce qui se passe si vous savez par laquelle des fentes la particule est passée? Et la réponse est que le motif d'interférence disparaît. Et cela soulève le problème suivant. Comment la particule sait-elle que vous allez mesurer la fente qu'elle veut traverser avant d'y arriver? Parce qu'elle doit se mettre en route. Elle doit décider si elle doit viser les deux fentes et interférer avec elle-même ou si elle ne doit pas le faire parce que vous allez la regarder. Pour moi, c'est la partie la plus étrange. Comment la particule sait-elle que vous allez rester assis là à la regarder? Cette question est ouverte au public. C'est là que nous sommes bloqués depuis 100 ans. Donc, l'interprétation standard est l'interprétation de Copenhague, qui dit simplement que les choses existent en tant que fonction d'onde jusqu'à ce qu'une mesure soit effectuée, puis la fonction d'onde s'effondre et des valeurs précises apparaissent. J'appelle l'interprétation de Copenhague l'interprétation sans interprétation de la mécanique quantique ou l'interprétation du type « tais-toi et calcule », car ce n'est pas vraiment une interprétation, et elle ne nous dit pas ce qui se passe lorsqu'une mesure est effectuée. Elle dit juste que cette hérésie grossière de l'effondrement de la fonction d'onde fonctionne tout simplement. Mais nous n'avons pas été plus loin. Il existe plusieurs options différentes pour ce qui se passe réellement à ce moment d'observation. Et elles incluent des idées sur ce qu'est réellement cette fonction d'onde embêtante, quelle est la relation entre la fonction d'onde et le grain de matière, la particule que nous connaissons et aimons. Donc, je pense que l'interprétation de Copenhague était fondamentalement l'idée de bord. Je veux dire, peut-être que certains historiens s'y opposeraient, mais je pense que c'est fondamentalement de là qu'elle vient. Et il a dit, ne nous demandons pas ce qui se passe. Comme eux, ce n'est pas réel. Nous ne sommes pas censés poser cette question. Tais-toi et calcule en gros. Et puis il y a la mécanique bonienne. Je pense que c'est celle qui est la plus facile à comprendre en termes de bonne vieille physique à l'ancienne parce qu'elle ramène à cette idée de particules. Donc, la mécanique bombienne dit fondamentalement qu'il existe une sorte de champ de guidage qui indique à la particule où aller. C'est ce qu'on appelle une théorie des ondes pilotes. Le problème avec cette idée, c'est que vous pouvez la faire fonctionner, mais ce ne sera pas local. Vous avez donc toujours cette influence étrange sur certaines particules d'un côté de la pièce, sur une autre particule de l'autre côté de la pièce. C'est donc aussi une question intéressante de savoir dans quelle mesure ces deux-là sont réellement différentes mathématiquement. Mais laissons cela pour une autre fois. Et donc je pense que l'interprétation la plus connue après celle de Copenhague est probablement l'interprétation en plusieurs mots, qui dit en gros que chaque fois que vous faites une mesure, vous créez un nouvel univers. Donc tous les résultats possibles se produisent réellement. Donc la particule va à chaque point de l'écran, mais pour chaque résultat possible, vous obtenez un univers séparé. Et vous savez, personnellement, je pense que ce n'est vraiment qu'une interprétation. En fait, cela ne résout aucun problème, parce que le problème de la mesure est vraiment une question mathématique. Par exemple, vous voulez être capable de calculer ce qu'est une mesure. Et l'interprétation en plusieurs mots ne le fait pas de la même manière que celle de Copenhague.
Je pourrais donc repousser cela, mais peut-être que je ne le ferai pas tout de suite. Une grande différence entre certaines de ces idées est que, comme vous l'avez laissé entendre, l'idée de localité. D'accord. Donc, différentes parties de cette fonction d'onde peuvent-elles connaître d'autres parties de cette fonction d'onde? Mais une autre est ce que nous appelons le réalisme, qui est un peu comme ce que représente réellement la fonction d'onde. Est-ce juste une représentation de nos connaissances? Est-ce une chose physique? J'essaie d'une manière ou d'une autre de trouver une manière appropriée de parler du supédéterminisme ici. Et donc, la non-localité est essentielle. Il y a donc des expériences que vous pouvez faire. Et quand Einstein a inventé cette expression d'action effrayante à distance, il a en fait écrit un article parlant d'un autre phénomène quantique, L'intrication, où deux particules différentes peuvent avoir ces propriétés complètement floues. Donc des propriétés fondamentalement indéfinies, mais néanmoins corrélées entre elles. Donc, leur réalité existe dans une certaine corrélation entre elles, pas dans les particules elles-mêmes. Du moins, c'est ce que prédit la mécanique quantique standard. Et Einstein, Podolsky et Rosen ont montré que, si c'est vrai, alors vous pouvez prendre ces deux particules dites intriquées très loin l'une de l'autre, des années-lumière. Peu importe. Quelqu'un pourrait faire une mesure sur une particule et l'éclairer littéralement de la manière qu'il choisit de faire cette mesure. Donc le type de mesure qu'il choisit de faire provoque un changement physique réel dans l'autre particule. L'autre particule devient définie d'une manière qu'elle n'était pas auparavant. Et donc c'est cette action effrayante à distance. Et je veux dire que j'ai des frissons en y repensant. C'est bizarre comme l'enfer. Quoi qu'il en soit, nous avons maintenant démontré que c'est exactement cet ad absurdum réducteur qu'Einstein a proposé pour écarter l'idée de la mécanique quantique standard qui s'est avérée réelle. Nous avons fait ces tests, appelés tests de la cloche, et ils exigent qu'ils montrent que l'univers, ou comme on dit habituellement, ils montrent que l'univers ne peut pas avoir ce qu'on appelle un réalisme local. D'accord, les deux particules que vous séparez ne peuvent pas savoir indépendamment quel est leur propre état. L'état ne peut pas être codé dans cette particule. Il doit être conforme à l'interprétation normale de cela. Il doit être distribué d'une manière ou d'une autre de sorte que la résolution puisse se déplacer plus vite que la vitesse de la lumière entre ces particules. Maintenant, je sais que ça veut dire que vous avez une interprétation différente de l'intrication.
Quantique, une interprétation différente de ce qu'Einstein a dit dans l'article. Donc, peut-être que nous allons commencer par cela. Je pense que le but de l'article de l'EPR était de dire que vous avez ces particules intriquées, une à gauche, une à droite, et nous supposons que la nature doit être locale parce que, bien sûr, Einstein était Einstein. Il ne voulait pas que quoi que ce soit aille plus vite que la vitesse de la lumière.
Et par « local », cela signifie simplement que toute influence ou tout transfert d'interaction doit se déplacer pas à pas, mais à la vitesse de la lumière, pas plus vite.
N'est-ce pas ? Donc, il doit traverser l'espace d'un endroit à un autre, mais il ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. Et donc, lorsque vous avez dit que si vous mesurez l'une des particules intriquées, quelque chose change physiquement par rapport à l'autre particule, c'est exactement ce qu'ils ont remis en question. Ils disaient que non, cela ne pouvait pas être le cas, car cela ne serait pas local. Par conséquent, il doit y avoir un élément sous-jacent de réalité, je crois que c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, qui a effectivement déterminé le résultat avant que vous ne fassiez la mesure. Et c'est ce qu'ils ont appelé une variable cachée. Ils ont donc dit que cet état intriqué décrit simplement notre manque de connaissance sur ce qui se passe réellement. Mais il y a une réalité en dessous. Donc, en ce sens, la fonction d'onde n'est pas réelle dans cette interprétation et cette réalité sous-jacente est décrite par les variables cachées. Donc, maintenant, les gens ont prouvé que ces corrélations existent réellement. C'est à cela que servait le prix Nobel en 2022, n'est-ce pas ? Et quel est le meilleur théorème, c'est-à-dire une preuve mathématique de ce type de mesure et de corrélation, qui nous dit que la seule façon de faire fonctionner cela. Ce qu'Einstein voulait faire, c'est que si la théorie est super déterministe, et c'est malheureusement une possibilité que presque tous les physiciens ont rejetée, à l'exception d'une poignée d'entre eux, dont je fais partie, et c'est sans doute pour cela que je suis là.
Donc, peut-être que je peux expliquer pourquoi je pense que les gens ont tendance à rejeter cette notion et peut-être y apporter un peu plus de clarté. Donc, ces particules sont séparées. Disons que leur corrélation est que l'une doit avoir un spin qui pointe vers le haut, l'autre doit avoir un spin qui pointe vers le bas. Mais vous ne savez pas laquelle est laquelle, et vous ne savez pas dans quelle direction le spin pointe. Gauche, droite, haut, bas, avant, arrière. Quand quelqu'un choisit de faire une mesure, Alice choisit de faire une mesure, le choix de la direction qu'elle choisit, gauche, droite, haut, bas, influence ce que Bob de l'autre côté va pouvoir voir de sa particule. Maintenant, l'action effrayante à distance est que cette interaction se produise instantanément. Mais une interprétation de variables cachées dirait que cette particule savait vraiment ce qu'elle était depuis le début, n'est-ce pas? Et cette particule savait vraiment ce qu'elle était depuis le début, et c'est juste que nous ne le savions pas. Et donc l'indétermination représente notre manque de connaissance, pas l'état réel de la particule. Cependant, lorsque vous regardez cette expérience et que vous regardez les corrélations, il semble vraiment que le choix de la mesure affecte les deux particules. Ma compréhension d'une théorie superdéterministe est que ces particules ont des spins corrélés. Mais comme l'observateur aux deux extrémités fait également partie de l'univers, son choix de mesure est également corrélé avec ses variables cachées à l'intérieur de ces particules. Et donc la personne pensait qu'elle choisissait de mesurer vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite, mais en réalité, elles font toutes partie d'un univers qui va vous donner la bonne réponse. Et en fait, vous n'aviez pas vraiment le choix quant à la direction dans laquelle vous choisissiez de mesurer ces particules. À quel point ai-je mal interprété cela?
Je l'ai prévenu qu'il ne fallait pas parler de test de type cloche parce que personne ne comprendrait. Donc, eh bien, il l'a fait quand même. Je dois donc m'opposer à quelque chose que vous avez dit, à savoir que le réglage de la mesure d'un côté n'affecte pas le résultat de la mesure de l'autre côté. Vous pourriez utiliser cela pour une signalisation non locale. Elles sont totalement indépendantes. Mais je veux dire, dans l'esprit, c'était correct. Mais je pense que vous voyez plus facilement la nécessité du superdéterminisme si vous repensez à l'expérience des doubles fentes, car comme je l'ai dit, si vous voulez décrire à la fois la situation où vous avez les deux fentes ouvertes et que vous obtenez le motif d'interférence, et la situation où vous regardez une fente, et que vous voulez décrire cela avec une théorie des variables cachées, qui a été réellement déterminée lorsque la particule a commencé à se déplacer. Alors la trajectoire de la particule doit dépendre de ce que vous allez mesurer. Donc, lorsque la particule commence à sortir, elle doit savoir si vous allez la mesurer au niveau de l'une des fentes ou si vous allez la mesurer sur l'écran. Et c'est exactement ce qu'est le superdéterminisme. Il dit que les variables cachées qui déterminent le résultat de la mesure dépendent finalement de ce que vous allez mesurer. Et c'est la même chose dans l'expérience de la cloche. C'est juste que c'est plus compliqué parce que nous parlons de ces, vous savez, angles et corrélations différents et ainsi de suite.
Ouais. Donc, je suppose que la seule objection que les gens ont tendance à avoir, c'est que la particule se dirigeant vers la fente doit savoir si l'expérience va essayer de mesurer le chemin qu'elle a emprunté ou non. Ce qui signifie que la particule doit être corrélée à un système incroyablement complexe. Vous savez, dans ce cas, le cerveau du scientifique qui prend la décision de mesurer ou non le chemin qu'elle a emprunté, et il est difficile d'imaginer un mécanisme par lequel cette corrélation pourrait se produire. Donc, d'une manière ou d'une autre, la particule se dirigeant vers la fente, vous savez, est-ce que je vais passer par les deux fentes? Est-ce que je vais juste passer par une fente? Ce choix de la particule doit être parfaitement corrélé à une décision qu'un scientifique va prendre de mesurer ou non. Donc, j'exprime mon malaise. J'entends ça tout le temps, mais mathématiquement, ce n'est pas vrai. La seule chose dont vous avez besoin, c'est le réglage de la mesure. Peu importe comment cela s'est produit, par exemple si quelqu'un a pensé à choisir ce paramètre, qu'il a appelé sa grand-mère et lui a demandé « quoi ?» Vous pouvez rendre cela arbitrairement compliqué. Vous pouvez toujours faire la même chose pour la mécanique quantique standard. Vous pouvez poser la même question, comme « d'où vient le paramètre de mesure ?» C'est quelque chose à voir avec le cerveau. C'est corrélé avec le cerveau et tout ça. Mais c'est totalement hors de propos. Si vous regardez les mathématiques, la seule chose dont vous avez besoin est le paramètre de mesure réel. C'est cette variable.
Mais ne voulez-vous pas pouvoir tracer une chaîne causale qui vous donne ce paramètre de mesure et vous dit pourquoi ce paramètre de mesure est corrélé avec la trajectoire de la particule parce que cette chaîne causale est la chose compliquée qu'il est difficile de justifier. Donc, je ne suis pas sûr qu'il soit bon de parler de causalité parce que nous savons que la causalité est vraiment déconcertante en mécanique quantique. Mais, E, c'est comme l'hypothèse sur laquelle le superdéterminisme est construit. C'est comme ça qu'on part, c'est ce qu'on n'explique pas. Chaque théorie doit avoir des hypothèses sur ce qui se passe, et le superdéterminisme part de cette corrélation avec le cadre de mesure. D'accord.
C'est, axiomatiquement, vous dites, c'est là. Et maintenant, demandons-nous ce qu'on peut expliquer avec ça? Et la réponse est, eh bien, on peut expliquer tous les résultats de mesure de la mécanique quantique, mais c'est local. Donc, on a résolu ce problème avec l'action fantasmagorique à distance. Et, vous savez, personnellement, je pense que c'est comme, de toute évidence, correct. Malheureusement, la plupart des physiciens ne sont pas d'accord avec moi.
Ouais, que faisons-nous quand plusieurs génies pensent que quelque chose est manifestement correct mais ne sont pas d'accord les uns avec les autres? C'est, par exemple, je pense que Sean Carroll est aussi attaché à de nombreux mondes que vous l'êtes au superdéterminisme.
Eh bien, vous faites des expériences, je dirais que c'est ce qui est intéressant avec le superdéterminisme et aussi quelques autres modifications de la mécanique quantique, comme les modèles d'effondrement. Ils font en fait des prédictions différentes de la mécanique quantique dans certains cas. Par exemple, vous voulez utiliser le superdéterminisme pour expliquer comment une mesure est réalisée. Et il y a des questions auxquelles vous pouvez répondre avec un tel modèle et auxquelles vous ne pouvez pas répondre avec la mécanique quantique. Par exemple, dans quelles circonstances obtenez-vous réellement cet effondrement? Qu'est-ce que c'est exactement? Et le problème que nous avons en ce moment, c'est que souvent, du moins pour l'instant, dans toutes les mesures que nous pouvons réellement faire, c'est masqué par la décohérence. Mais c'est une voie technologique qui est actuellement très fortement développée avec les ordinateurs quantiques et la détection quantique, etc. Ils essaient de faire de la correction d'erreurs. Ils essaient de maintenir le niveau de décohérence aussi bas que possible et ils construisent des choses de plus en plus grandes. Et à un moment donné, ils vont juste arriver à cette fourchette où ils devront déterminer si c'est toujours une fonction d'onde ou si c'est censé s'effondrer. Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Je pense que nous sommes juste en train d'expérimenter. Le
superdéterminisme existe-t-il une expérience particulière ou une prédiction que le superdéterminisme fait concernant l'effondrement?
C'est compliqué. Donc la réponse courte est que je pense que oui, mais je n'ai pas écrit l'article. Et donc c'est en fait assez similaire à l'idée de Penrose avec l'effondrement induit par la gravitation. Le problème, c'est que si vous mettez les chiffres, c'est vraiment difficile d'y arriver. J'essaie donc de savoir quelle est l'expérience que vous devez réellement faire en laboratoire et toutes les estimations que j'ai faites sont à environ 5 ordres de grandeur de ce qui peut être fait actuellement. Ce n'est donc pas génial, mais au moins en principe, c'est possible et j'espère que nous y arriverons de mon vivant. C'est donc le mieux que je puisse faire pour le moment. Oui, il y a des cas pires en physique théorique, à peu près des ordres de grandeur d'une expérience possible. Le graviton. Donc, c'est ce qui est intéressant à ce sujet, c'est que pour moi, ce qui est intéressant dans le modèle de Penrose, c'est ce lien avec la gravité, car il dit en gros que c'est finalement quelque chose à voir avec l'interaction gravitationnelle. Et je pense qu'il a raison, car cela me ramène magnifiquement à notre point de départ, où j'ai dit que j'en étais arrivé là à cause de notre difficulté à quantifier la gravité. Je pense qu'à terme, pour résoudre le problème de la mesure, il faut expliquer pourquoi la quantification de la gravité ne fonctionne pas. Donc, je veux dire, ça marche dans un certain sens. On peut le faire mathématiquement, mais cette théorie s'effondre si l'on atteint des énergies suffisamment élevées, ce qu'on appelle l'échelle de Planck. Et je pense donc que l'on peut utiliser l'effondrement pour résoudre ce problème en disant qu'avant d'atteindre cette échelle, tous les effets quantiques disparaîtront parce qu'ils s'effondreront tout simplement. Donc, pour moi, ce sont comme deux parties du même problème.
Mais si vous continuez à augmenter l'échelle et que vous ne voyez jamais d'effondrement, vous devez commencer à vous demander si l'effondrement est même réel.
Ouais.
Et si ce n'est pas réel, alors restez à l'écoute pour de nombreux mondes au prochain festival. Mais je suis ravi que vous ayez été en quelque sorte superdéterminé à revenir à la gravité quantique, malgré tous vos efforts.
Je pense que j'ai présenté mes arguments aussi bien que possible. Veuillez lever vos mains pour Spinhausfelder et Masoodle.